sommes ravis de vous retrouver dans l'émission Les Plantes Vagabondes, le rendez-vous nature de Radio G proposé par l'équipe du Planty à Étuillé, le coworking rural collaboratif et gourmand du nord de l'agglomération angevine. Un lieu inspirant et aspiré, en pleine nature, qui vous propose de nombreuses activités et formations en lien avec le végétal pour mieux les utiliser, les connaître et en faire des alliés précieux. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et avec Christelle, réflexologue plantaire et relaxologue, aujourd'hui à la console du studio, nous partons en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Son feuillage dressé et graphique nous offre au printemps des floraisons multicolores aux couleurs de l'arc-en-ciel. À la fois fragiles et éclatantes, elles illuminent les fossés, les pieds de mur et les jardins. Valeurs sûres des aménagements publics, elles sont parfois victimes de leur succès et font l'objet de chapardages aux grandes dames des agents communaux. Nous avons le plaisir d'accueillir dans cette émission l'iris sous les applaudissements qui plus est. Dans cette émission, nous écouterons Jessie, nouvelle adhérente du pro du Planty et esthéticienne basée à Étuillé dans la séquence interview et dans la chronique Le bonheur est dans les simples, Julie, naturopathe à Étuillé, nous parlera des bienfaits de l'ortie. L'arrivée du printemps et l'allongement progressif du jour est un appel à sortir son vélo de la remise et de partir explorer les parcours du quotidien à bicyclette. Une fois les pneus regonflés et le dérailleur graissé, nous retrouvons le goût de l'équilibre assis sur la selle. Quel plaisir de sentir le vent nous caresser le visage, les rayons du soleil nous réchauffer le dos pour nous encourager. Longer à vélo les routes de campagne, les rues et les chemins, nous donne l'occasion d'observer des floraisons printanières aux couleurs d'arc-en-ciel, le rouge des oseilles, le jaune des renoncules, le bleu des véroniques ou encore le blanc des stellaires. C'est l'opportunité d'écouter le vol des insectes, le bruissement des feuillages, le chant des pinsons ou les ponctuations du pouillot véloce, d'admirer un arc-en-ciel ou un coucher de soleil. Tout est émerveillement. Le bonheur de humer le parfum subtil des aubépines et des églantiers. Seul risque pour les bavards, ingérer un moucheron par inadvertance, encore qu'il soit devenu si rare, hélas. Circuler en silence nous permet de surprendre un faisan, un chat ou un mulot dissimulé dans les herbes folles. Pratiquer le vélo, c'est aussi la liberté des chemins détournés et des raccourcis secrets. Personnellement, j'adore cette période pour sillonner les routes. C'est un émerveillement sans cesse renouvelé de repérer les orchidées et les primes verts, de sentir le parfum des violettes sur les talus, d'admirer les iris dans les fossés gorgés d'eau. Allez, il est temps de retrouver nos invités, les iris. L'iris, au bord du rivage, se reflétait dans l'étang. Belle iris sauvage, qui rêve au beau temps. Iris, mes beaux yeux, tu parfumes les draps blancs. Iris merveilleux, iris au bord de l'étang. Dans cette émission, nous prenons plaisir à partager des moments de poésie. Et ce poème, L'Iris, de Robert Desnos, extrait de son ouvrage Chantefleurs, ne manque pas de charme. Le genre iris est apparu à la fin du Crétacé, il y a plus de 80 millions d'années. Il mérite donc tout notre respect et nous apporte de précieuses connaissances sur la capacité des végétaux à résister aux bouleversements climatiques et géologiques planétaires. La plupart des 210 espèces sont vivaces et se retrouvent sur tous les continents actuels de l'hémisphère nord, Europe, Asie, Afrique et Amérique. Très résistants, ils survivent à des températures négatives de moins 15 degrés. Le nom d'iris trouve son origine latine dans le mot « iridis », lui-même issu du grec « iridos » et signifie littéralement « arc-en-ciel », notamment grâce à la coloration lumineuse de ses pétales. Cette personnification est très ancienne et remonte à la mythologie. Iris, fils de Thomos, fils de la terre, est la messagère des dieux. incarnation féminine du dieu Hermès, elle devient la favorite de Héra, à qui elle n'apporte que des bonnes nouvelles. Ailée, comme le dieu Hermès, légère, elle se déplace, virevoltant dans les airs. Pour la récompenser de ses talents, Héra la transforme en arc-en-ciel. C'est ainsi que, vêtue d'un voile en arc-en-ciel, elle se déploie dans le ciel, assurant le lien entre le ciel et la terre, les dieux et les hommes. La tradition hellénique considère l'arc-en-ciel comme le chemin suivi par la demi-déesse pour découvrir le secret de l'immortalité. Les iris incarnent ses pouvoirs magiques car ils poussent au pied des arc-en-ciel. Ils constituent de précieux talismans. Les iris sont des plantes herbacées dotées d'un feuillage persistant dressé comme des glaives. Ces feuilles longilignes et charnues, au vert sombre, engainantes à la base et pointues, sont alternes. Face à face, deux à deux, elles s'écartent pour former de petits éventails à la silhouette bien reconnaissable. Persistantes, elles agrémentent joliment les massifs. Endurant, les iris atteignent un âge vénérable puisqu'ils peuvent vivre jusqu'à 20 ans. À partir du mois d'avril et pour certaines espèces jusqu'au mois de septembre, des hampes florales déploient entre 5 et 9 fleurons. Les fleurs portent les deux sexes et sont dites hermaphrodites. L'espèce la plus courante dans nos jardins, l'iris allemand, Iris germanica, possède de grandes fleurs aux trois sépales horizontaux ou tombants, comme pour les iris barbus, et trois pétales dressés. Les trois étamines fécondent le pistil qui forme ensuite des fruits en forme de capsule. La reproduction, par semis, permet un brassage génétique. Les plants issus de graines mettront 2 à 3 ans pour fleurir. Les jardiniers sélectionneurs devront donc patienter. Certaines espèces sont remontantes et produisent jusqu'à 3 floraisons, de quoi ravir les yeux et les butineurs. Cependant, les iris sont prévoyants et pleins de ressources. Ils ont la capacité de se multiplier par voie végétative et de stocker des réserves. Ainsi, divisé en 2 sous-groupes, le premier regroupe les espèces à rhizome, c'est-à-dire avec un stockage dans la tige rampante souterraine. On y retrouve les iris allemands ou iris barbus à rhizome, ainsi que les iris à rhizome sans barbe, comme les iris des marais, l'iris pseudocorus, l'iris versicolore ou l'iris ensata. Le second groupe accumule quant à lui ses réserves dans des bulbes et regroupe 4 autres sous-genres. Allons, je vous invite à une petite pause musicale avec Barbara Carlotti et son titre « Pour la nature ».
Je regarde autour de moi et je ne vois rien. Plus de visage dans la rue. Le gris a pris le dessus. Plus d'oreilles, plus d'yeux, plus de nez. Plus de mains, plus de jambes, plus de pieds. Mais leur bouche me murmure. Il faut faire quelque chose pour la nature. Je regarde autour de moi et le ciel ne bouge plus. Plus de visage dans la rue. Le gris a pris le dessus. L'horizon est sale et le vent se tue. Les couleurs se valent. Mais le ciel me susurre. Il faut faire quelque chose pour la nature. Il faut inventer des histoires et devenir sourd aux rumeurs. Il faut se remettre à l'air pur et débrancher les transistors. Il faut danser dans l'eau qui dort et parler le langage des fleurs. drogue dure. Oubliez la fonte des glaces et sans arrêt changer de place. Il faut remettre de la couleur, chanter à l'oreille des morts, ne pas avoir peur.
Coriace et pionnière, les iris apprécient les sols secs, rocheux et calcaires. Certaines espèces, comme l'iris des marais, vivent les pieds dans l'eau et colonisent volontiers les fossés. Si vous voulez les accueillir dans votre jardin, il faut d'abord cesser de faucher les fossés au printemps et attendre la fin de l'été afin que leur cycle puisse être complet. Sans compter qu'ils jouent un rôle épurateur et contribuent ainsi à améliorer la qualité des eaux de surface. Ils se repèrent facilement grâce à leur splendide floraison jaune. En génie végétal, ils stabilisent avec talent les berges des étangs ou des cours d'eau à faible courant. On les admire de façon spontanée en bord de Sarthe. L'iris des marais est l'espèce la plus ancienne cultivée, recensée, puisqu'elle est mentionnée sous l'époque babylonienne. La plupart des iris apprécient les expositions ensoleillées. Seul l'iris gigot ou iris fétidissima pousse plus volontiers à l'ombre des haies dans les chemins. Ses autres surnoms, iris fétide ou iris puant, sont dus à l'odeur dégagée par les feuilles lorsqu'on les froisse ou on les coupe. Il est très reconnaissable à l'automne grâce à ses fruits rouges spectaculaires aux graines orangées. Il est possible d'en faire des bouquets secs, même si je les trouve plus charmants dans le paysage. Vous êtes sur Radio G 101.5 FM à l'écoute de l'émission Nature de Radio G, les plantes vagabondes, pour parler aujourd'hui de l'iris. Les iris, par le graphisme de leur feuillage et leur floraison multicolore et éblouissante, trouvent une place de choix dans les jardins. Ils sont faciles à planter et à multiplier car les rhizomes doivent être juste enfouis en surface. Ils ne nécessitent aucun entretien, excepté leur division. Il faut veiller à laisser les inflorescences bien sécher avant de les couper. Lorsque j'accompagne les communes qui souhaitent promouvoir le fleurissement de pieds de mur, je leur propose des iris, car outre qu'ils embellissent joliment les rues, ils s'adaptent très bien à tout contexte de sol. Ils sont moins envahissants, en outre, que d'autres végétaux à la mode, comme la rose trémière ou le centranthus rouge. En conception paysagère, l'iris est une plante qui, en fonction des associations végétales, peut révéler une ambiance sèche de rocaille ou, à l'inverse, une zone humide et luxuriante. Un véritable couteau suisse de l'aménagement. En outre, l'utilisation de l'iris dans un massif est un excellent moyen pour faire comprendre l'intérêt écologique des associations végétales en lien avec leur milieu physique. Les iris ont de tout temps inspiré peintes et poètes, Monet, Van Gogh et bien d'autres les ont immortalisés dans leurs toiles. Ils illuminent de nombreux parcs et jardins qui en font leurs plantes stars. C'est le cas du jardin de Claude Monet dans l'Oise ou du château d'Auvers-sur-Oise qui propose un festival de l'iris tous les ans. Avant de poursuivre avec les usages et le symbolisme de l'iris, je vous invite à écouter l'interview de Jessie, nouvelle adhérente pro du plantis et esthéticienne basée à Écuyer, engagée et spécialisée en produits bio. Écoutons-la. Bonjour Jessie.
Bonjour Claudie.
Bienvenue dans les plantes vagabondes. Donc tu es adhérente professionnelle, nouvelle arrivée aux plantis. Et donc tu es esthéticienne dans une structure que tu as créée qui s'appelle Jolie Audacieuse. Donc peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton métier ?
Alors je suis esthéticienne, donc c'est une reconversion. J'ai décidé d'ouvrir un institut de beauté directement à Écuyer, vraiment à la campagne, pour être proche des habitants. J'ai ouvert depuis juin l'année dernière, donc 2023, et je propose énormément de prestations pour que les habitants aient le choix d'avoir un panel à choisir.
Et donc, tu as parlé de ton choix de prendre une gamme de produits qui était biologique. Donc, peux-tu nous en dire plus ? Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Et puis, quelle est la particularité de ces produits aujourd'hui que tu utilises ?
Alors, quand j'ai réalisé mon projet de monter mon institut de beauté, je voulais vraiment des produits de qualité, qui soient engagés aussi. Et je suis remontée en fait au fait que Écuyer soit bio-engagé. Et je me suis appuyée là-dessus. J'ai voulu aussi être engagée. Donc j'ai choisi plusieurs marques, dont Fitz, qui est une marque vraiment proche de la nature, qui est certifiée bio. J'ai d'autres marques comme Épiloderme aussi. Donc ce sont deux marques françaises. Donc Épiloderme propose des soins d'épilation, donc à base de cire naturelle. Donc toujours voilà, proche de la nature, au plus naturel et bio si possible.
Donc c'est intéressant de voir la connexion au territoire dans ta démarche. Les plantes vagabondes, c'est une émission sur la nature et on aime bien que nos personnes interviewées témoignent sur leur lien à la nature, savoir s'il y a, enfin voilà, que ce soit dans la motivation sur leur activité professionnelle, soit dans, parfois ça peut remonter à loin dans l'enfance, je sais pas. En tout cas, est-ce qu'il y a une plante ou un souvenir que tu souhaiterais nous faire partager dans cette émission pour donner envie aux gens d'arrêter d'avoir peur comme ça du monde qui nous entoure.
Alors l'avantage de vivre à la nature, c'est qu'il y a tellement de plantes. En choisir une, c'est difficile parce que finalement, quand on regarde une fleur, on en aime une autre aussi. Moi, particulièrement, j'adore la tulipe. J'ai toujours adoré la tulipe parce que elle peut avoir mille couleurs. Elle dure qu'un temps. Et elle me rappelle aussi, oui, mon enfance et je sais pas, je trouve qu'elle est, c'est une fleur à tige épaisse, comme si elle paraissait forte comme les femmes et de mille couleurs parce qu'on est toutes différentes. Voilà, c'est un peu comme Jolie Audacieuse, c'est on est toutes toutes audacieuses, on ose, il faut oser être une femme et s'assumer. Et c'est ce que je veux aussi chez mon institut. En fait, dans mon institut, c'est toutes les femmes sont libres et choisissent ce qu'elles veulent, et tout en étant engagées et libres. Voilà.
Alors ça, c'est tout. Ton témoignage est vraiment extraordinaire parce que au fur et à mesure qu'on avance dans l'émission Les Plantes Vagabondes, on découvre. Ou redécouvre que le soin qu'on veut accorder à la nature dans notre société, il est lié vraiment aux femmes. Et que ce lien a été coupé il y a pas mal de temps maintenant. Et que, en fait, il peut se retrouver grâce aux femmes. Et donc, voilà, c'est une émission assez féminine, Les Plantes Vagabondes. Ce qui n'était pas forcément le souhait au départ.
Oui, complètement, oui.
Ben, merci pour ce témoignage, Jessie.
Merci, Claudie.
De toutes les plantes invitées dans notre émission, l'iris est de loin celle qui a tissé un lien symbolique très ancien avec le pouvoir et les dieux. Au Japon, où l'art ancestral des fleurs lui prête une âme et un caractère, l'iris a été la plante totem d'une tribu nippone dès les temps préhistoriques. Cette plante a fait l'objet d'une fête nationale dès l'époque impériale, que l'on célèbre encore aujourd'hui, le 5 mai de chaque année, en portant une botte d'iris. Une sorte d'équivalent de notre 1er mai avec le muguet, car comme lui, l'iris porte chance une année durant. Chaque ville, y compris Tokyo, dispose de jardins d'iris. Une coutume datant de 10 siècles consiste à s'endormir la tête posée sur un motif d'iris. La liqueur d'iris, Sioku Sake, confectionnée à base du rhizome d'iris récolté l'hiver, est réputée guérir de nombreuses maladies. Sous l'Égypte antique, l'iris est associé au dieu faucon Horus, une divinité très ancienne qui incarne le soleil du matin et du soir. Les couleurs vives de l'iris symbolisent l'arc-en-ciel qui réunit le ciel et la terre. Sous l'Antiquité romaine, les trois flèches de la fleur incarnent la fidélité, la sagesse et la vaillance. Les fleurs blanches et bleues ornent au mois de mai les temples de Junon, la déesse reine des dieux et épouse de Jupiter. Une fois fanées, les prêtresses les vendent à prix d'or car elles symbolisent le pouvoir de la déesse. En France, l'iris des marais représente l'emblème de la royauté, la fleur de lys, et fait partie des quatre motifs figurant sur les écus avec la croix, l'aigle et le lion. Le symbole floral trifide, dont nous connaissons tous aujourd'hui le graphisme stylisé, trouve son origine dans la tradition chrétienne, et ce, dès l'Empire byzantin. Il ne s'agit donc pas à l'origine d'un lys. Le lien avec la royauté date de l'époque des rois francs-saliens issus des peuples germaniques. Une des légendes, fort belle d'ailleurs, affirme que l'iris est devenu le talisman de Clovis alors qu'il est pourchassé par les Visigoths en 505 aux alentours de Châtellerault. En traversant à gué la Vienne, il cueille une fleur d'iris jaune qu'il conserve pendant la bataille. Devenu victorieux, il troque les crapauds de son blason pour l'iris des marais. Ce symbole devient ensuite l'emblème du royaume et de son unité et orne depuis le blason royal français. Il faut aussi savoir que sous le haut Moyen-Âge, l'iris est la fleur nationale allemande. Emblème du Saint-Empire romain germanique, elle fut nommée fleur de Louis en hommage à Louis le Pieux, successeur de Charlemagne. L'histoire allemande et l'histoire française restent intimement liées, qu'on se le dise. L'iris est une plante aux multiples usages. En parfumerie, l'essence d'iris obtenue après distillation de leur rhizome est un fixateur de parfums réputé aux effluves fleuries proches de celles de la violette. L'espèce la plus utilisée est l'iris de Florence, un iris très ancien, déjà cultivé par les Grecs et à la belle teinte bleue. Plus tard, une autre espèce, l'iris pallida ou iris de Dalmatie, originaire, lui, de Croatie, sera cultivée. Elle aussi en Italie et sur le pourtour méditerranéen, jusqu'à la ville de Grasse en France. Catherine de Médicis a fortement contribué à l'usage de l'iris en parfumerie. Peut-être est-ce pour cette raison que l'iris est devenu l'emblème de la ville de Florence. L'iris des marais est quant à lui l'emblème de la région de Bruxelles, alors que l'iris versicolore bleu est celui du Québec depuis 1999. En cosmétique, la poudre de rhizome fermentée, puis séchée, pilée et tamisée, donne une poudre blanche portant le nom de poudre de riz. Une poudre fort coûteuse car nécessitant de nombreuses années pour son élaboration. Une poudre utilisée au XVIIe siècle pour blanchir notamment les cheveux et les perruques. En usage alimentaire, sous l'Antiquité, la poudre de rhizome d'iris parfume les plats. Il aromatise certains alcools comme le gin, élaboré à base de baies de genévrier ou le Chianti. En effet, au Moyen-Âge, il est courant de placer un rhizome d'iris dans le tonneau d'un vin trop fermenté. Dans les campagnes, les rhizomes séchés d'iris se placent dans le linge, des armoires pour les parfumer, de la même façon qu'avec la lavande. L'iris est aussi un prénom très utilisé en Allemagne et aux États-Unis d'Amérique. En langage des fleurs, l'iris signifie « la richesse » et la bonne nouvelle, avec son message « Je vous le dis encore, je vous aime ». Comment ne pas avoir d'iris dans son jardin avec un tel mantra ? En usage médicinal, les racines d'iris s'utilisent contre les gastro-entérites pour calmer les vomissements et les diarrhées. Elles soignent les maladies du foie et de la vésicule. Les feuilles en cataplasme soulagent les plaies et les brûlures bénignes. Tiens, en parlant de santé, il est temps d'écouter la chronique « Le bonheur est dans les simples » avec Julie qui nous parle des bienfaits de l'ortie.
L'ortie est un trésor pour la santé. connue depuis des siècles pour ses vertus thérapeutiques, l'ortie est une véritable pépite naturelle qui est souvent sous-estimée. Et oui, ce n'est pas qu'une mauvaise herbe dont il faut se débarrasser. Donc moi je suis Julie Bocquen, je suis naturopathe à Écuyer et aujourd'hui je vais vous parler des bienfaits de l'ortie pour la santé. Donc déjà en vous rappelant sa richesse nutritive qui est vraiment exceptionnelle et qui en fait un cadeau de la nature. Donc elle a beaucoup de minéraux, l'ortie, du calcium, du magnésium, du potassium, du chlore, du zinc, du silicium et du fer aussi en très grande quantité. Elle a aussi plein de vitamines, vitamine B, la vitamine K, vitamine C et la provitamine A. On va retrouver beaucoup de chlorophylle dans l'ortie, des oligo-éléments comme la silice, le manganèse ou le soufre, et puis des flavonoïdes, des protéines. Voilà, donc elle est très très complète au niveau nutritif, et donc bien sûr ça en fait une plante qui propose des bienfaits assez exceptionnels. Donc elle est nutritive et reminéralisante avec tout ça. Vous pouvez vraiment considérer l'ortie comme un légume complet à intégrer dans votre assiette. Elle va renforcer le système immunitaire, elle va réguler la tension artérielle, elle va purifier l'organisme, elle a des propriétés anti-inflammatoires et détoxifiantes, elle va donc soulager les rhumatismes, les allergies, les troubles digestifs. Et puis on peut également compter sur ses bienfaits au niveau de la peau et des cheveux. Elle va favoriser leur pleine santé, leur pleine vitalité. Donc c'est une plante que l'on trouve en abondance hein, par chez nous. Elle est très facile à utiliser. Il faut juste penser à prendre des gants pour la cueillette parce qu'effectivement, elle pique. Donc vous allez pouvoir la préparer en infusion, en eau aromatisée, faire des smoothies, des tartes, des soupes, des gratins, des omelettes. Bref, le choix est assez large. Vous allez pouvoir laisser parler votre imagination. L'idéal, c'est de récolter des jeunes pousses, parce que c'est plus digeste et plus souple, on va dire, à manger. Et la meilleure période pour le faire, c'est le printemps et l'automne. C'est là où elle va avoir le plus de principes actifs. L'idée, une fois que vous les avez récoltées, ces jeunes pousses, c'est de les rincer à l'eau claire avec un petit peu de vinaigre de cidre et de les faire sécher. Ce qu'il faut noter, c'est que pour préparer votre tisane, il va falloir laisser les feuilles infuser au moins 30 minutes pour bien extraire les principes actifs de la plante. Moi, ce que je vous conseille pour une tasse d'infusion, c'est une cuillère à café de plante sèche ou alors 3 feuilles fraîches à laisser infuser dans votre tasse. Et puis, vous allez pouvoir également préparer l'ortie sous forme de poudre en passant les feuilles sèches au moulin à café. Vous allez pouvoir, cette préparation de feuilles émiettées, vous allez pouvoir saupoudrer tous vos plats, tous vos salades pour bénéficier des nutriments de l'ortie. Elle est contre-indiquée aux personnes qui souffrent d'hémochromatose et puis également aux personnes qui sont sous anticoagulants. Donc de toute façon, avant toute cure, le conseil que je donne, c'est quand même de demander l'avis à votre praticien. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Il est temps de nous quitter. Vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. N'hésitez pas, évidemment, à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. Il y a même 2 pages. Si vous avez aimé et souhaitez partager ce moment nature, faites passer le message autour de vous. Christelle et moi et toute l'équipe du Planty vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir l'origan.